la comparaison entre le portrait de Manet et de...
des deux intervenants que j'ai à côté de moi. Nous ferons les questions, enfin nous donnerons la parole à la fin des deux interventions. Bien, alors je suis dans une position qui est vraiment tout à fait confortable et dont je n'ai jamais joui jusqu'ici. Pas de communication à présenter, pas de trac, pas de jugement plus ou moins indulgent à affronter. Je n'ai que du plaisir. Un double plaisir, celui de la disponibilité et celui d'annoncer des communications tout à fait alléchantes. J'espère que vous ne me ferez pas jouer le gendarme trop. Et ma présidence, cet honneur que l'on m'a fait, auquel je suis tout à fait sensible, et ce plaisir que l'on m'a fait, je l'exercerai assez durement à la demande de notre président, de notre organisateur en chef. Alors je donne la parole tout de suite à Joy Newton. Joy est professeur à Glasgow. Nous connaissons tous ses travaux. C'est une infatigable travailleuse et elle a fait de très nombreuses études sur les rapports entre la littérature et l'art, et en particulier sur les rapports entre Zola, un certain nombre de peintres, et aussi Rodin, dont on reparlera peut-être à propos de la Société des gens de lettres. Joy aussi a étudié l'impressionnisme de Zola. Alors aujourd'hui, elle nous parle, mais voilà, je n'ai pas mes lunettes, de Zola et de Raphaël. Merci. Est-ce que tu veux qu'on demande le noir ?
Ah, non.
Non, il n'y a pas de diapositive. Mais vous avez un petit, tous, à le petit, tout le monde a ce petit volume que Joy a distribué.
Bon, Raffaelli et Zola. Selon le critique Boyer, le trait suggestif de Raffaelli rend une âme aux toitures sinistres, aux masures malsaines, aux plaines monochromes, où s'enlève sans beauté le moderne tuyau d'usine sur le ravage des grands ciels. C'est Zola fait peintre. Qui est ce Zola fait peintre? Je vais faire tout simplement une esquisse de sa carrière et tracer ses rapports avec Zola aujourd'hui. Comme il n'est pas très bien connu, il y a un dossier qui circule qui vous donnera une idée de son œuvre. Alors, Jean-François Raffaelli, né en 1850, mort en 1922, était le peintre par excellence de la banlieue industrielle de Paris et de ses habitants les plus pauvres. Il fut aussi un innovateur en sculpture et un portraitiste de talent. Son père, d'origine italienne comme le père de Zola, était chimiste. Après une enfance aisée, le jeune Jean-François, âgé de 15 ans, se vit forcé de chercher un emploi commercial à la suite de revers de fortune essuyés par sa famille. À 18 ans, il suivait les cours des beaux-arts, tout en gagnant sa vie comme choriste et comme acteur. Par la suite, il voyagea beaucoup, surtout en Afrique, en Italie, en Espagne, mais il trouva toujours sa véritable inspiration dans la vie de la banlieue parisienne, plutôt que dans un exotisme de convention. Raffaelli fut reçu au Salon des Champs-Élysées en 1870 et y exposa régulièrement jusqu'en 1889, bien qu'il y fût refusé plusieurs fois. À partir de 91, il exposa ses toiles au Salon de la Société nationale du Champ de Mars, dont il était membre fondateur. Très ambitieux, il monta plusieurs expositions individuelles. La première eut lieu en 1884, et le journal des Goncourt la juge ainsi. Photographie curieusement exacte de façades de mairies de banlieue et de marchands de vin, et d'intérieur ridicule de petits bourgeois. C'est là le talent de ce menteur de coups qui fait en ce moment oublier Gavarni. Raffaelli était lié aux impressionnistes et protégé par Degas, il exposa avec eux en 81 et 82. bien que sa palette plutôt sombre, bien que sa palette soit plutôt sombre et qu'il ait une attention poussée pour le dessin et le goût d'un certain misérabilisme, très éloigné des préoccupations de Renoir et de Monet. Raffaelli s'était en effet attiré l'épithète de naturaliste. Et de nombreuses œuvres de cette époque peuvent légitimement être classées comme telles. Voir par exemple dans le petit dossier que vous avez, les fortifications et les usines sous la neige à la page 2, et ailleurs ces terrains vagues, sa grue à vapeur. D'autres tableaux encore mettent en scène des pauvres, tels sont mendiants, le déménagement qui est illustré à la page 3, et ses chiffonniers à la page 2 et 3. Il a aussi peint des sujets évoquant des thèmes de l'assommoir. Par exemple, à la page 4, vous avez les forgerons buvants, qui a été exposé au salon en 85. N'oublions pas non plus à la page 2, à votre santé, dimanche au cabaret, à la page 5, et ailleurs, les buveurs d'absinthe et les blanchisseuses à Anières. En outre, en 1993, il publia une collection de gravures en couleur, Les Petites gens, qui participent de la même inspiration. Raffaelli habita longtemps à Anières, mais en 1992, il s'installa à Paris et il peignit de plus en plus souvent des vues de la capitale, telles son Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, et à la page 6, vous avez Notre-Dame de Paris. Il monta aussi une exposition de peinture, sculpture et gravure chez lui, 202 rue de Courcelles, en 1994. Grâce à ses tableaux parisiens, à la fois pittoresques et commerciaux, sa notoriété fut grande. Selon Gustave Geffroy, un de ses amis et un des critiques les plus perspicaces de l'époque, l'apport de Raffaelli à l'histoire de la peinture est appréciable. La banlieue parisienne a trouvé, selon Geffroy, l'artiste, l'observateur, amoureux de la réalité de son temps. Ce peintre était relié d'amitié avec plusieurs écrivains, dont Huysmans, Daudet, Mallarmé, Onique et Geffroy. Et il illustra plusieurs ouvrages de ses amis. Il exécuta des eaux fortes et des pointes sèches pour les croquis parisiens de Huysmans, dont vous avez les maigres repas ou les restaurants au bon marché, illustrés à la page 5. Il illustra aussi Germini Lacerteux des Goncourt pour une édition de luxe de la collection personnelle du bibliophile Gallimard. Mais Goncourt, toujours aussi désagréable, fulmina contre, et je cite, de pareilles ordures qui feront tâche dans le beau monument typographique. Fin de citation, bien qu'il trouvât le peintre fort sympathique et qu'il apprécia son propre portrait brossé par Raffaelli à la page 5. Il est probable que Zola et Raffaelli se soient rencontrés vers la fin des années 70, car un croquis humoristique de Manet et Zola à table par Raffaelli est daté aux environs de 78. Cette image appartient sans doute à l'époque où les peintres avec lesquels Zola était lié avaient abandonné les réunions du café Gerbois pour celles du café de la Nouvelle Athènes, à la place Pigalle, vers 77. Pizarro, Monet et Cézanne s'y rendaient de temps en temps, alors que Renoir, Manet et Degas, ce dernier accompagné de ses amis et protégés, Raffaelli et Forain, en étaient déshabitués. Zola ne salua pas les débuts de Raffaelli au salon, bien que le peintre y exposa régulièrement dès 1870. Mais Huysmans, que Zola avait introduit au Voltaire, y fit l'éloge du peintre dans sa revue du Salon de 79. Et je cite, « Dans l'un de ces mélancoliques paysages qui s'étendent autour du Paris pauvre, des cheminées d'usine crachent sur un ciel livide des bouillons de suie. Trois chiffonniers retournent au gîte. J'ai vu au salon peu de tableaux qui m'aient aussi douloureusement et aussi délicieusement poignés. La même année, Zola partagea l'enthousiasme de Huysens qui, peut-être, attirait son attention sur ce peintre naturaliste. Je pourrais nommer, dit Zola, quantité de peintres emportés par le souffle moderne. Il faudrait citer avant tout Butin, Béraud, Raffaelli, dont les mérites se font remarquer d'année en année. En juillet 80, Raffaelli reçut de la part de Huysmans un exemplaire dédicacé des soirées de Médan. En réponse, il écrivit une première lettre à Zola dans laquelle il lui faisait part de son appréciation de son œuvre. C'est une lettre très longue, je ne cite que les extraits qui concernent les ouvrages. « J'ai lu l'Assommoir. C'est d'une tenue, d'une marche et d'une clarté inouïe. Je m'étonne de la sottise qu'il faut dépenser pour trouver cela immoral. J'ai lu aussi Le Ventre de Paris. C'est peut-être trop en plein bitume. Et il y a des empathies. Je vous demande pardon de vous comparer un peintre. » Après ces remarques, somme toute louangeuses, Raffaelli se permet de faire part de ses restrictions sur la critique d'art de Zola. Vous avez écrit ces derniers temps avec une certaine fatigue, peu d'attention et pas mal de mépris, une étude sur notre troupeau. Après des idées très justes sur messieurs Degas, Monet, Manet, etc., vous avez trouvé moyen d'asseoir le naturalisme dans la peinture, au salon, sur messieurs Bastien Lepage, Pelouse, Pellet. Tout en réservant mon appréciation à vos idées d'enrégimentation, j'ai trouvé cela un peu comique. D'ailleurs, je m'arrête vite sur ce terrain. Raffaelli, au fond, était mécontent que sa peinture fût assimilée au naturalisme. Les commentaires de Zola le poussaient à formuler sa propre théorie pour se distinguer des naturalistes. Il développa ses idées dans son étude des mouvements de l'art moderne et du beau caractériste. C'est la préface du catalogue de sa première exposition individuelle qu'il avait organisée en 84. Il y définit le caractère du beau essentiel qui, même à l'époque du positivisme, ne s'accommode pas du naturalisme. Naturalisme, et je cite Raffaelli, c'est le mot d'hier, avec impressionnisme en peinture. Il estime le terme trop systématique ou pas assez scientifique. Mais l'écart entre le but qu'il se fixait et celui de Zola n'était pourtant pas si grand. Comme celle de Zola, son œuvre avait une référence sociale et sociologique et il peignait des sujets humbles, négligés par beaucoup de ses contemporains. Ses personnages, tirés de la banlieue industrielle, sont souvent des marginaux, ravagés de fatigue et de misère. Par exemple, la rentrée des chiffonniers. Comme Zola, Raffaelli créait une œuvre qui était aussi une enquête sur les types de gens bas du peuple. Sa théorie, qu'il appelait « caractérisme », s'inspire directement de Taine et de Zola. Mais Raffaelli voulait se faire une réputation bien à lui et ne pas être confondu avec les disciples de Zola. La correspondance entre Zola et Raffaelli ne fut pas régulière, car ils se rencontraient de temps en temps dans les milieux artistiques qu'ils fréquentaient l'un et l'autre. Goncourt, par exemple, écrit dans son journal « Geoffroy m'amène Raffaelli, qui a demandé à voir mes dessins. C'est le 2 février 87. » À part de cette date, Raffaelli devint un habitué du grenier et il figure sur la photographie que Goncourt fit tirer de ses fidèles le 2 décembre 94. Chez Goncourt, Raffaelli se trouva aussi souvent dans la compagnie de France Jourdain, Daudet, Hennig. Et selon Goncourt, c'est à une recette de régime de Raffaelli que Zola dut sa nouvelle silhouette. Après un dîner chez les charpentiers en mars 88, Goncourt confia à son journal que Zola avait maigri de 28 livres et qu'il recommençait à ressembler à son portrait de Manet. Quelques mois plus tard, il ajouta « À la représentation d'Esther Brandes au Théâtre Libre, Zola se rencontrait dans un corridor avec Raffaelli et avait peine à lui laisser le passage et s'échappait à dire « C'est embêtant d'avoir un bedon comme ça. Vous savez, lui jeter Raffaelli en se dégageant, il y a un moyen très simple de maigrir, c'est de ne pas boire en mangeant. » Le 23 janvier 90, Raffaelli écrira à Zola « Vous m'avez fait passer à la postérité avec votre recette pour maigrir. » Il semble donc bien que la réputation de Raffaelli comme diététicien, aussi bien que peintre, s'était déjà très répandue. En juin 88, Zola et Raffaelli collaborèrent à la préparation d'un album illustré « Les types de Paris ». Avec des textes de Goncourt, Daudet, Zola, bien sûr, Huysmans, Mirbeau et Mallarmé. Parmi les contes que Zola lui proposait, Raffaelli choisit une farce ou bohème en villégiature. C'est à la page 7 du dossier que vous savez. Ce conte, daté d'octobre 1877, vers la fin du séjour de Zola à l'Estaque, et le conte dont l'action se passe à Gloton-sur-la-Seine contient des échos des jours heureux de Bencourt. Le 29 juillet 88, Raffaelli annonçait à Zola « Une épreuve de la jolie nouvelle que vous avez bien voulu m'offrir vous sera envoyée ces jours-ci. » Et il écrivit à nouveau lorsqu'il lui rendit l'original de la nouvelle. « Vous m'avez rendu service, je vous assure, je vous prie de disposer de moi. » Si par une besogne quelconque, je peux vous être agréable. » L'album des types de Paris fut publié en mars 89 et vraisemblablement, à l'occasion de la parution d'une édition de luxe, Raffaelli écrivit à Zola le 23 janvier 90 « Je vous envoie mon livre, vous le recevrez demain, accompagné d'un tout petit pastel que j'ai fait dans le temps. » Au temps où votre assommoir paraissait. Il représente Gueldor et Gervaise se faisant la cour sur la butte Montmartre. Vous le recevrez comme un acompte sur ce que vous doit votre reconnaissant Raffaelli pour votre aimable et précieuse collaboration. Zola possédait aussi un crayon et pastel de Raffaelli qui s'appelait Famille, peut-être un autre cadeau du peintre, disparu ou dispersé lors de la vente de Madame Zola en 1925. Zola lui rendit visite aussi en 92. Il est probable qu'il se soit rendu ce jour-là chez le peintre qui préparait un portrait de Zola commandé par Edmond de Goncourt. Goncourt, comme vous savez, collectionnait les portraits de ses amis, portraits qu'il faisait exécuter sur le livre préféré. Et dans son journal, il nota « Zola peint à l'huile par Raffaelli sur un exemplaire de l'assommoir », un Zola un peu matérialisé, naturaliste. Il existe aussi une gravure sans date de Raffaelli qui réunit Zola et ses hôtes de Champs-Rosé, Monsieur et Madame Daudet, avec Edmond de Goncourt, Geoffroy et le peintre lui-même. C'est à la première page du dossier que j'ai distribué. En 92, Raffaelli exposa pour la première fois au Royal Glasgow Institute of Fine Arts. Et la même année, il passa aussi l'été en Écosse. De Glasgow, il écrivit une longue lettre à Zola pour le remercier de la débâcle. Dans cette lettre, il confie à l'écrivain que le détail qui le frappait le plus était la façon dont il dépeignait la foule, c'est-à-dire dont Zola dépeignait la foule. Et Raffaelli, qui naguère concentrait son regard sur le chiffonnier ou le marchand d'ail solitaire, tels que vous les voyez à la page 2 et 3 du dossier, se mit désormais lui aussi a embrassé des scènes d'ensemble et le grouillement des foules parisiennes. Au milieu du dossier, vous avez quelques exemples de son traitement de foule. Dans la préface au catalogue de sa grande exposition rétrospective en 1909, Raffaelli écrivit « J'aime les villes, ces agglomérations de monuments anciens et de logis humains, ces concentrations de foules terribles qui se dissolvent si souvent en innocentes flambées. » Voici donc un extrait de la longue lettre que Raffaelli envoya à Zola au mois de septembre en 92. J'ai lu ici en Écosse, où j'ai passé l'été, votre beau livre « La débâcle » que vous avez eu l'amicale bonté de m'envoyer. J'ai eu beaucoup de jouissance à voir combien vous aviez dans ce livre rattaché tous vos types à l'action générale. Ce doit être fort difficile de faire manœuvrer littéralement des foules comme celles que vous avez mises dans Germinal et dans La débâcle et leur donner la vie pour le détail symbolique. Suit une description de Glasgow, ville très industrialisée au 19e siècle, qui rappelle le Paris de l'Assommoir. Alors, je cite la lettre. « C'est ici à Glasgow où nous sommes pour quelques jours que se voit le plus au monde, je crois, l'écrasement du faible. Cependant, il semble qu'ici le peuple prend assez bien les choses. Il est payé le samedi à midi, une heure après, il est ivre, et il passe le dimanche chez lui à se reposer de son travail et de son ivresse. Alors, il chante des cantiques. Tout cela est fort ordonné et cet ordre constitue pour lui une sorte de bonheur. » Fin de citation. Voilà une image un peu idéalisée de Glasgow, où j'enseigne moi-même. C'est pas tout à fait comme ça. Bien que cette lettre fût la dernière de Raffaelli à Zola, les deux hommes se rencontrèrent par la suite. D'abord, à un grand dîner, le 6 mai 1994, avec les Rodenbach, les Charpentier et Léon Daudet. Goncourt, qui était aussi de la partie, rapporte qu'ils se sont aimablement disputés au sujet d'une œuvre de James Tissot exposée au Champ de Mars. La bataille éclate à propos de la monographie peinte du Christ, que Zola déclare l'avoir complètement empoignée et à laquelle il regrette de ne pouvoir faire un article, et que Raffaelli éreinte avec une injustice révoltante et proclame l'ouvrage d'un cireur de bottes. Au début de 1995, Raffaelli partit pour son premier voyage aux États-Unis pour y inaugurer des expositions et pour y faire une tournée de conférences. Avant son départ, il se joignit activement à un groupe d'amis qui désirait rendre hommage à Goncourt à l'occasion d'un banquet solennel au cours duquel Zola eut l'idée de lui faire remettre la Légion d'honneur. Le banquet fut organisé par Raffaelli, Geffroy, Carrière, Daudet et bien sûr Zola. Comme Zola classait très soigneusement sa correspondance, il est peu probable que Raffaelli lui ait écrit après sa lettre de Glasgow. Proche du Grenier et de Goncourt, Raffaelli peut fort bien s'être éloigné de Zola après la mort du maître d'Auteuil en 1896. En 87, on le voit déjà colportant à Goncourt le jugement de Zola sur la pièce tirée du Sœur Philomène. Et l'échec de Zola à l'Académie française le précipite chez Goncourt, où il potine à qui mieux mieux. Il n'est guère utile d'insister une fois de plus sur la jalousie de Goncourt envers Zola, bien trop forte pour qu'il ne la trahisse pas à son cercle d'intime. Dans un sens, il est dommage que Raffaelli et Zola se soient éloignés l'un de l'autre, car Raffaelli devait une grande dette à l'écrivain qui lui avait révélé par ses œuvres la beauté intransigeante et sans sentimentalité de la capitale et de ses habitants pauvres. Je vous remercie de votre attention.
Moi, je félicite Joy d'avoir respecté le temps. Je donne la parole tout de suite à Robert Lesbridge, qui est professeur à Cambridge et qui a lui aussi organisé il y a quelques mois de très très belles journées sur Zola, dont nous gardons un souvenir enthousiaste, un certain nombre d'entre nous. Robert a fait de très nombreuses études que je me garderai bien de citer toutes. Je rappellerai simplement que nous, qui devions préparer des étudiants à l'agrégation récemment, avons puisé à pleine main sur ce qu'il avait écrit sur la curée en particulier. Alors, il nous parle des représentations de la banlieue chez Zola et les peintres, et je demande si on ne peut pas avoir un noir plus absolu, s'il vous plaît. Un peu plus? Non, ça va? Voilà. Non? Non, alors un peu plus de jours, si vous... un peu de jours pour écrire. Ça va?
Oui, on peut mettre à point. C'est ça.